Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Il a tellement fait pour moi. Mon Dieu est bon, mon roi est bon. C'est vrai, il a changé ma vie. Je ne sais que te dire, quoi te dire. Seigneur, tu es si bon. C'est vrai, il me rend nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est bon pour nous. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Amen. Le Seigneur est bon. Il transforme tes situations difficiles en situations favorables. Ce que tu traverses, ce que tu vis comme épreuve, a un temps de fin. La date de péremption de tes épreuves est arrivée, c'est-à-dire c'est fini. Alléluia! Elles tendent vers leur fin. Et un jour nouveau, glorieux s'ouvre pour toi. Tu es au seuil d'une nouvelle dimension. Tu es au seuil d'un nouveau temps de grâce et de faveur. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. On bénit le Seigneur pour les chants. Worship. Amen. Amen. Mais c'est ce que le Seigneur nous dit depuis le début. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ces choses. Comment transformer nos déserts en oasis? Comment transformer les temps d'épreuve en moments favorables, en moments glorieux? L'épreuve qui survient dans ta vie, l'épreuve que tu vis, l'épreuve qui survient dans nos vies, l'épreuve ne vient pas pour nous détruire, mais l'épreuve, le désert vient pour nous équiper. Dieu veut t'équiper. Alléluia. Ne vois pas l'épreuve comme une souffrance gratuite, comme une souffrance inutile que Dieu impose. C'est vrai, certaines, l'ennemi, le diable en profite pour te mettre toutes sortes de pressions. Mais n'oublie pas que tu as donné ta vie à Jésus si tu l'as fait. Et si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il faut qu'il le fasse. Il faut naître de nouveau, il faut donner ta vie à Christ. Alléluia. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que ta vie lui appartient. Alors rien ne surviendra dans ta vie s'il ne l'a autorisé, s'il ne l'a permis. Donc les choses qui t'arrivent concourent à ton bien. Il dit lui-même, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Donc les choses qui surviennent dans ta vie sont forcément et certainement pour ton bien. Donc toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu es appelé dans le dessein de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Dieu te connaît par ton nom, il connaît ta vie mieux que toi-même. Alléluia. Et à ta vie est attachée une promesse. Ou à ta vie est attachée certaines promesses. Et toute la Bible relate l'histoire des personnes, comment elles entrent dans leurs promesses. Abraham, dans le cheminement de sa promesse. Jacob, Isaac. Et tous les hommes dans la parole de Dieu, on les voit. On voit la prophétie dans leur vie. On voit un temps qu'ils traversent. Jésus, il est annoncé comme le sauveur de l'humanité. Il est annoncé pour venir sauver le monde. On le voit un moment avec ses parents. Et un temps, on le voit entrer dans un désert. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans un désert. Et c'est au sortir de ce désert que Jésus a été revêtu donc, de toute la puissance, alléluia, où il a pu exercer la promesse du salut de l'humanité. Toi aussi, tu portes une promesse. Même s'il ne s'agit pas de la promesse de ta destinée, même une petite promesse même accessoire, c'est-à-dire intermédiaire, avant d'arriver à l'accomplissement de ta destinée, cette promesse-là suit toujours le cheminement dont nous parlons. Amen. Et Dieu a permis à ce que le peuple entier d'Israël traverse un désert. Dieu a voulu cela à dessein. C'était son plan. Il les a fait passer là afin de pouvoir les équiper, afin de pouvoir les revêtir. Et avec l'équipement spirituel qu'ils allaient acquérir dans cet endroit, ils allaient être à même, ils allaient être capables de posséder leur héritage qui à leur époque s'appelait Canaan. Donc quand ils sont en Égypte, Dieu dit à part Moïse, le Seigneur vous envoie dans une terre bénie, une terre qui donne du fruit, une terre arrosée. Donc c'est une promesse. Entre la prophétie et la raison de la promesse, il y a un séjour dans le désert. Et toutes les vies, tout le monde est confronté à un cheminement pareil. Alléluia. Et une fois que tu traverses le désert, une fois dans le désert, tu seras confronté à 10 épreuves. Il y en a 10 en tout. Nombre chapitre 14, verset 22. Malheureusement, Israël, dans la traversée du désert, va échouer à ces 10 épreuves. Mais quand vous les étudiez attentivement, vous découvrez que derrière chaque souffrance et chaque douleur ou chaque situation difficile, Dieu cachait une révélation de Christ, une révélation de Dieu, une révélation glorieuse. Alléluia. Alléluia. Chaque épreuve transporte un équipement, transporte une grâce, une faveur, un trésor. Je dis, quand tu comprends cet enseignement, tu vas finir même par aimer les épreuves. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Et nous sommes à la quatrième épreuve. Et derrière chaque épreuve se trouve une oasis, se trouve un temps, se trouve un miracle. Et chaque fois qu'Israël était confronté à une épreuve, comment on voyait le miracle? Le miracle n'arrivait pas par hasard. Dieu donnait toujours à Moïse des instructions. Lorsqu'il n'avait pas d'eau à boire pendant plusieurs jours, quand Moïse l'a invoqué, il lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Donc, les consignes étaient précises. Et quand Moïse se comportait de la sorte, il y avait effectivement de l'eau. Le désert était transformé en oasis. Donc, nous essayons de décoder et de tirer les leçons des consignes que Dieu a données à Moïse face à chaque épreuve. Et celle que nous étudions dans l'histoire d'Israël commence en Exode 17 pour prendre fin en Exode 32. Dans cette période-là, Israël va être confronté à une épreuve qu'on appelle le désert des... Ah, dites-moi, désert comment? Le désert des longues attentes, c'est-à-dire tu as une promesse qui tarde à se réaliser. Amen. Donc lorsque tu attends quelque chose de Dieu et que tu es presque convaincu que le Seigneur va te donner cela, mais la chose tarde à se manifester, on dit que tu traverses un désert de longue attente. Le désert 1, c'était un désert où tu es privé d'un besoin essentiel. Amen. Ainsi de suite, chaque désert porte une leçon spécifique. Une fois que tu as discerné la leçon, une fois que tu as discerné pardon, le type de désert, tu appliques les éléments qui viennent par la suite et le désert va te produire sa richesse. Amen. Donc, tu es confronté à un désert de longue attente. Tu as des paroles que Dieu t'a données, mais elles tardent à s'accomplir. Et nous avons donné plusieurs clés. Amen. En l'occurrence, la patience. Amen. La patience, triompher d'Amalek ou de la dépression. Alléluia. Pour ne pas faire des erreurs. Et puis, la troisième et dernière chose. J'avais dit qu'il y avait quatre, mais j'ai combiné les deux dernières clés. Amen. La dernière chose que nous avons commencé à étudier dimanche dernier, c'est l'organisation qui précède l'avènement de la gloire. À cause du temps, je ne vais pas lire tous ces passages, mais si vous lisez Exode 17, quand Israël arrive dans ce désert-là, il finit en 32, il a dit, quand Moïse tardait à descendre, Israël a fabriqué un veau d'or. Donc, il y a la notion de tarder. Donc, parce que Moïse tardait, Israël a péché. Amen. Donc, c'est le symbole aussi de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu tarde quelquefois, mais il n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. Et pendant cette période, il y avait un ensemble de leçons. Donc, en Exode 17, on a l'attaque d'Amalek. On a étudié qu'est-ce que ça signifie, comment un chrétien vit cette attaque-là dans son quotidien. Après que Israël ait triomphé d'Amalek, pendant qu'ils étaient en train d'attendre les promesses de Dieu, Jéthro, le beau-père de Moïse, visite Moïse. Et il donne des explications. Il dit à Moïse, « Moïse, la manière dont tu gères le peuple est telle que tu ne pourras pas arriver à ta destination. » Vous voulez ça, vous verrez cela en Exode chapitre 18. Donc Moïse a la promesse. Dieu a parlé à Moïse, mais Jéthro vient de la part de Dieu lui révéler qu'il n'est pas bien organisé, que son organisation, la gestion de son temps, son administration est telle qu'il ne peut pas rentrer avec cela dans sa promesse. Amen. Donc Dieu peut vous faire une promesse. Dieu peut te dire, tu vas te marier, tu vas avoir un ministère, tu vas influencer les nations, tu vas aller évangéliser tel ou tel endroit. Et tu portes la parole. Dieu peut t'annoncer, tu vas te marier, tu auras des enfants. Mais si cette promesse-là tarde à s'accomplir, alléluia, si c'est parce que toutes les promesses ne sont pas sujettes à la longue attente, amen, il y a une ou deux promesses que tu as qui vont rentrer dans le processus du désert 4. Donc si tu as une promesse qui rentre dans le processus du désert 4, Dieu attend certaines choses, amen. Il y a le temps, bien sûr, qui va passer, mais il y a la nécessité de t'organiser. Moïse, dans sa gestion, était désordonné. Parce que Dieu s'apprête à te bénir, parce que Dieu va te visiter, il faut que tu changes, que tu améliores ton organisation. Amen. Amen. L'arrivée de toute promesse prend de l'espace. Une promesse qui s'accomplit, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Pour simplement comprendre, j'ai souvent illustré cela avec l'arrivée d'un enfant. Un enfant est une bénédiction de Dieu. Lorsqu'il va venir, tu dois pour accueillir l'enfant, tu dois te réorganiser. Vrai ou faux? Tu dois réorganiser la maison. Parce qu'un enfant qui arrive, il prend de la place. Si tu n'as pas une grande maison, tu vas déplacer les armoires, tu vas ranger ceci, tu vas ranger cela pour créer sa place. L'enfant qui arrive prend de l'espace. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Il prend de l'espace. Il faut lui prévoir de l'espace dans ta tête, dans ton temps, dans tes finances. Si tu avais 200 000 francs de salaire mensuel, quand tu vas avoir un enfant, tu vivais avec tes 200 000 francs, mais parce que l'enfant arrive, tu es obligé de lui créer de l'espace dans tes entrées. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc l'enfant peut être une bénédiction, mais si tu n'as pas créé d'espace financier pour le recevoir, si tu n'as pas créé d'espace physique même dans la chambre, l'endroit où il va dormir, si tu n'as pas organisé ton emploi du temps, la promesse de Dieu ne sera plus pour toi une bénédiction. Ça sera pour toi un problème. Donc Dieu va te donner l'enfant, mais tu ne t'es pas préparé. Tu ne t'es pas réorganisé. Tu n'as pas prévu ton temps. Tu dis, quand l'enfant arrive, tu dis, petit, moi, ta maman, je suis busy. Tu connais busy, petit? Busy. Je n'ai pas le temps. Je travaille pour nourrir la famille. Je travaille du matin jusqu'à la nuit. Mais l'enfant est arrivé. L'enfant s'en fout de ton timing avant. Il dit, quand j'arrive, on réorganise la vie. Et ça, tu dois le faire avant. Tu dois réorganiser ton temps. Tu dois te dire, ce petit-là, il va me bouffer la nuit parce qu'il va pleurer toute la nuit. Tu dois lui consacrer du temps. Tu dois réorganiser ton emploi du temps pour trouver du temps pour lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai pour toutes les promesses. Si Dieu veut te donner un travail, le travail va nécessiter un changement d'organisation. Si la matinée, tu partais visiter des amis, la matinée, tu vas aller au travail. Je veux dire, il n'y a pas une promesse qui s'accomplit sans prendre de l'espace. Elle prend de l'espace dans ton esprit, elle prend de l'espace dans tes émotions, elle prend de l'espace en toutes choses. Un mariage, ça prend de l'espace. Quelqu'un me comprend? Avant, tu vivais seul, tu rentrais aux heures que tu voulais. Maintenant, tu te maries, tu dis à ta femme, chérie, l'homme que tu as aimé a l'habitude d'aller causer avec ses amis jusqu'à 23 heures. On partait jouer au Ludo. Donc, prends-moi comme ça et tu seras heureuse. Écoute mon frère, on ne te prend pas comme ça. On ne veut pas que tu sois comme ça. Si tu te maries pour continuer à garder ton emploi du temps de célibataire, ton foyer sera un problème. D'où viennent les divorces? Une grande partie des divorces vient de ce que beaucoup de gens n'ont pas préparé la place d'autrui. Ils n'ont pas préparé la place de l'arrivée de la promesse. C'est-à-dire, ils veulent conserver leurs vieilles habitudes dans le mariage. Mais tu n'es pas prêt à te marier. Dans ce cas-là, au lieu que ton foyer soit heureux, il sera conflictuel. Or, se marier, c'est une faveur de Dieu. Donc, une faveur, une promesse peut se transformer en problème parce qu'on n'a pas créé de l'espace. Si tu avais l'habitude de dormir quand tu étais sans travail, tu dormais jusqu'à 8h30. Il y en a qui dorment jusqu'à 14h. Non, lève-toi, va expliquer à ton patron. Patron, excusez-moi. Avant que vous ne m'embauchiez, je dors d'une manière. Je ne peux pas arriver à votre travail à 8h. Non. Considérez que moi j'arrive à 10h parce que je dors. Je dormais jusqu'à 8h, je prends mon petit déjeuner et c'est vers 10h, 11h que j'ai venu au travail. Ça vous va? Frère, tu n'entreras pas. Si tu viens en retard comme ça, on va te virer, on va te renvoyer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas préparé la place de ton nouveau travail. Donc, c'est quoi une promesse? Qu'est-ce que tu attends? Réfléchis à ce que tu attends. Est-ce que tu es conscient que ça va te prendre de l'espace? Est-ce que tu es conscient que tu vas changer ton organisation? Que tu vas revoir tes façons de faire? Que tu vas changer ta manière de te comporter? Alléluia! Donc, c'est ce que Jétro est venu expliquer. Donc, dans le désert des longues attentes, Jétro explique à Moïse que, mais je paraphrase, si tu attends comme ça, parce que Dieu dit que vous n'êtes pas prêt pour entrer dans la promesse. Parce que quand on n'est pas prêt, la bénédiction ressemble à une malédiction. Amen. Un mariage ressemble à une carie dentaire. Quand on ne s'est pas préparé, ça pose des sérieux problèmes. Alléluia. Alléluia. Alors, nous finissons aujourd'hui le désert 4 avec les éléments qu'il faut pour nous préparer à recevoir toute promesse de Dieu. Est-ce que le Seigneur a dit, ma fille, mon fils, je t'accorderai les moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour financer les missions? Si Dieu t'a dit ça, gloire à Dieu. Mais l'arrivée de l'argent nécessite une réorganisation dans ta vie. Toute nouvelle chose qui survient dans ta vie, ce n'est pas un petit billet qui va rentrer dans ta poche. Ce qu'on appelle la gloire. Parce que tout le monde crie, on dit, qui veut la gloire? Moi, je reçois la gloire. Moi, cette année, c'est glorieux. Est-ce que tu es prêt? La gloire peut t'écraser. Tu as dit, ah, c'est quelle gloire ça? Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas le temps de lire, lisez le passage. Quand Israël attendait, quand Moïse est monté sur la montagne, en Exode 20, 21, la Bible dit que Dieu va descendre sur la montagne. La montagne va se mettre à trembler. Israël qui voulait voir Dieu dit ici à Moïse, Moïse, nous on ne veut plus Dieu comme ça. Ah, mais c'est trop dangereux, il veut nous tuer. C'est pas la peine. S'il vient venir, toi Moïse, tu es prêt, traite avec lui. Nous, on aime la vie de tous les jours. Voilà des gens qui n'étaient pas prêts à la gloire. Ils ne s'y sont pas préparés. Or, juste avant que Dieu ne descende sur la montagne, en Exode 20, 21, on était venu les préparer. Et juste avant, la veille, Dieu a dit à Moïse, va leur dire, voilà comment vous devez dormir, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez éviter, voilà, voilà. Là, on tenait des règles. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce que Dieu est glorieux, il est puissant, il prend du temps, il prend de l'espace. Et il faut créer l'espace. Donc, Dieu ne veut pas que vous attendiez sa gloire pour fabriquer l'espace. La foi veut que vous créez l'espace avant l'arrivée de la bénédiction. Amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Dis, je crée l'espace. Et pour illustrer ce que Moïse a fait, je pourrais aussi vous conseiller de prendre l'enseignement sur l'organisation divine. Amen. Là, je parle d'ordre, mais je ne vais pas aborder l'ordre sous l'axe d'un thème que j'ai déjà traité, l'ordre divin, comment on s'organise selon Dieu. Mais je vais plutôt baser sur le fait de s'organiser pour prendre de la place. Et on va retrouver, je vais juste citer, mais on va retrouver dans la vie et dans les conseils que Jétro va donner à Moïse, on va retrouver les éléments que Dieu attend lorsqu'il s'apprête à bénir ses enfants. Amen. Et le Saint-Esprit m'a conduit sur le passage d'Ésaïe 54 à partir du verset 1, qui est une prophétie qui annonce l'imminence d'une gloire, d'une faveur spéciale. Et quand Dieu annonce l'imminence d'une faveur spéciale, comme toutes les autres fois, il demande une préparation. Pour que Jésus-Christ arrive, Jean-Baptiste va venir faire la préparation. C'est toujours comme ça. Amen. Il faut que tu réussisses ta phase de préparation. La phase de préparation pour attendre ton miracle, est-ce financier, professionnel ou autre, est un peu comme un dossier que tu vas aller présenter à Dieu. Tu dis, Dieu vérifie. Il dit, tel côté, c'est prêt? Oui. Tel côté, c'est prêt? Oui. Ok, tu es prêt. Maintenant, tu es prêt pour le mariage. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Ésaïe chapitre 54, verset 1, à partir du verset 1, dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Donc Dieu promet qu'il arrive bientôt. Il dit déjà, réjouis-toi. Et au verset 2, il va donner des recommandations précises. Et nous avons étudié dimanche dernier deux de ces recommandations. La première, il dit ceci, parce que tu vas avoir quelque chose, là je paraphrase, tu vas avoir quelque chose, tu vas avoir une grande chose qui va te visiter, élargis l'espace de ta tente. Amen. Alors, juste un petit additif sur ce point. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. L'espace d'une chose est virtuel. Quand je dis virtuel, ce n'est pas matériel. L'espace de ta tente. Tu n'as même pas encore bâti la tente. On dit, élargis l'espace de ta tente. Donc, c'est toi qui regardes le terrain et puis tu dis, je bâtirai ma tente sur telle limite. Donc, ce n'est pas quelque chose de physique. On n'a pas dit élargis ta tente. C'est élargis l'espace où on va installer la tente. Quelqu'un me suit? Amen. Donc l'espace, c'est une vue de l'esprit. Donc Dieu dit, quand ma gloire va venir, il faut que tu élargisses l'espace de ta tente. C'est ce qu'on a traité dimanche dernier. Amen. Amen. Et je vous ai dit, c'est un travail de la pensée. Si dans ton imagination, tu ne t'es pas créé l'environnement, dans ta tête, tu ne t'es pas créé l'environnement que tu veux voir. Quand la gloire va venir, il faut savoir que tu n'es pas prêt. Amen. Tu n'es pas encore marié, mais tu dois dans ta pensée, dans ton esprit, anticiper la vie conjugale. Tu dois voir, ça ne sera pas précis, ça ne sera pas parfait, mais tu dois voir ce que tu veux être avec tes enfants. Ce que tu veux être. Tu dois créer ça dans l'esprit, dans l'imagination. Écoutez, j'ai beaucoup enseigné sur les pensées. Tout à l'heure, même pour ceux qui resteront à la formation de l'académie, c'est un cours aussi sur les pensées. Amen. Par rapport à en ce qui concerne la foi. C'est important. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est nécessaire. Ton esprit doit se redimensionner. Tant que tu ne crées pas l'espace dans ta tête, parce que Dieu est esprit en fait, tu n'es pas prêt à recevoir. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, Dieu a créé toutes choses pour un but, n'est-ce pas? Quand vous regardez votre corps physique, vous êtes à même de dire à quoi sert chaque membre. Le doigt, il sert à quoi? Tu peux dire cela. Maintenant, je te pose la question, pourquoi Dieu a créé les pensées? Pourquoi on pense? Pourquoi est-ce que l'homme pense? Pourquoi tous les humains ont-ils la capacité d'imaginer? Il y a quelqu'un qui va dire non, peut-être. Il y en a qui croient que Dieu a créé les pensées pour critiquer. C'est-à-dire pour donner son avis de manière officieuse. C'est-à-dire, tu penses que tu n'aimes pas la tête du gars, mais comme tu ne peux pas le lui dire, donc c'est dans ta tête là, tu dis, il rit à moi. S'il savait que j'avais envie de le taper, il allait comprendre. Ça, c'est la pensée qui dit ça. Mais tu crois que ça sort de ta bouche. Donc, pour beaucoup de gens, la pensée, c'est l'endroit où on fait ce qu'on a envie de faire de mal sans que cela soit signalé. Écoute, Dieu n'a pas créé la pensée comme une antichambre pour imaginer ce que tu n'as pas envie de faire dans le réel. Non. La pensée est une zone de contact entre l'invisible. La pensée précède la création. Le fait de voir l'invisible précède la création dans le monde naturel. Amen. Amen. Lorsque Dieu veut donner beaucoup d'enfants à Abraham, il dit, la Bible dit, Dieu a pris Abraham, il l'a fait sortir. Et puis il dit, regarde le ciel. Regarde les étoiles. Tes enfants seront aussi nombreux. Abraham a dû le voir. Il a dû élargir le nombre d'enfants dans sa tête. Il a dû élargir et anticiper dans son esprit la quantité d'enfants qu'il allait avoir. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait? Parce que c'est important. Amen, amen, amen. Amen. Dimanche dernier, je vous ai cité cela. Pourquoi, avant que Pierre n'aille évangéliser les païens, il lui d'abord amène une image où, dans son esprit, il élargit d'abord l'évangile aux païens. Avant que, dans le monde réel, il ait la capacité d'aller parler aux païens. Il fallait d'abord, dans la tête de Pierre, briser ses limites intérieures pour dire, maintenant, allez, il y a quelqu'un qui a besoin de l'évangile. Si vous ne voyez pas, dans votre, vous n'imaginez pas par le Saint-Esprit les endroits où vous allez partir annoncer la parole. Si tu as envie de construire un hôpital, tu dois le voir. Tu veux faire des magasins, tu dois les voir. Alléluia. Et puis, le passage que je voulais ajouter là-dessus, c'est ceux-là. Amen, amen, amen. Amen. Regardez ça par exemple. Hébreux chapitre 11, verset 3. Il est dit, Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Voilà, vous le repassez peut-être pas à l'écran, mais notez. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La Bible dit, tout ce qui est visible a une origine dans le monde invisible. Et la Bible dit, c'est par la foi, l'imagination, là, ça s'appelle la foi, c'est le début de la foi. Allez voir ce qu'on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu ta future voiture. Mais tu dois la voir dans l'invisible d'abord. Quelle promesse tu attends? Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. L'apôtre Paul dit ceci. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta, que Moïse quitta l'Égypte. Sans, et pardon, ça c'est Joseph. Qu'il quitta, non, c'est Moïse, pardon. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Toutes les personnes ont tué le rêve parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir dans le présent. Donc le présent t'empêche de rêver et en même temps ferme l'action de Dieu dans ta vie. Tu as trop de charges, il y a trop de choses à régler. Tu ne vas pas prendre ton temps, te coucher dans ta chambre et puis commencer à imaginer. Tu fais quoi? J'imagine. Est-ce que tu as mangé puis tu imagines? Faut manger, hein? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Pardon, ventre affamé, faut faire tout, tu vas ouvrir tes oreilles. Mais si tu n'ouvres pas tes oreilles pour entendre ce que tu vas faire, tu ne vas pas sortir de la famine. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il faut, soyez des gens un peu rêveurs. Et dimanche dernier, j'ai donné des points essentiels. C'est pourquoi il faut réécouter ceux qui ne l'ont pas écouté. Des points essentiels. Comment le rêve fonctionne. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui le donne. Alléluia. Et puis, la deuxième chose, j'ai dit, le texte d'Ésaïe 54, verset 2 dit, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Je ne vais pas longuement revenir là-dessus. Je vous ai dit, ça fait partie de la responsabilité. Donc, j'imagine le terrain et j'imagine, il dit, déploie ta couverture, que je vais tout couvrir. Et je vous ai montré, à base des versets bibliques, que ça parle de ta responsabilité. Voir des grands magasins, pour Dieu, ce n'est pas le plaisir d'avoir des magasins, mais c'est le fait que tu fasses ton travail, que tu répondes effectivement à ta charge en nourrissant les personnes. C'est bien d'imaginer d'avoir une grande église. Mais ça, c'est le rêve qui étend. Mais la Bible ne dit pas seulement étend l'espace. La Bible dit aussi couvre. Déploie les couvertures. Prends la responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple que tu diriges devienne être des disciples de Christ? Ça, c'est très important que Dieu vous le donne. Qu'est-ce qu'il faut? Comment tu vas accomplir réellement ta tâche? Amen. Et la troisième chose, alléluia, donne un bon amen à Jésus. Il dit ceci, ne retiens pas. Dis avec moi, ne retiens pas. Dis, je ne retiendrai pas. Donc, Ésaïe 54, verset 2 dit, ne retiens pas, allonge tes cordages. Dis avec moi, j'allonge mes cordages. Est-ce qu'on peut avoir l'image de la tente, s'il vous plaît? Donc, élargis l'espace de la tente. Allonge les cordages. Les cordages, ce sont les cordes. Toutes les tentes pour être dressés ont besoin d'une corde, de cordes. Amen. Donc, on prend les cordes pour utiliser ce qu'on appelle les cordages. Il dit ici, allonge les cordages. Le cordage, c'est ce qui permet à la tente de se déployer. Tu peux avoir la couverture, tu peux avoir l'espace, mais si on ne tire pas les cordes, la tente va rester patatras. Amen. Dis avec moi encore les cordages. Donc, c'est vrai que tu as rêvé, tu as imaginé, et puis tu as rêvé, tu dis, Seigneur, je veux vraiment résoudre les problèmes. Je ne veux pas qu'il y ait beaucoup, c'est vrai, je rêve qu'il n'y a plus d'enfants dans la rue. Je rêve de bâtir des orphelinats. Ok, mais des orphelinats doivent être couverts, c'est-à-dire ils doivent effectivement atteindre leur objectif, permettre aux enfants d'être épanouis. Amen. Ça, c'est la responsabilité. Chaque chose a un devoir, une responsabilité. Mais pour que la couverture puisse tenir, pour que ta vision tienne, pour que le rêve tienne, il y a une chose que tu dois faire avant l'arrivée de la gloire, avant l'arrivée de la promesse, c'est étendre tes cordages. Dis, j'allonge mes cordages. Alors, les cordages à allonger, les cordages font référence à la sagesse divine. Dis avec moi la sagesse. Donc, je dis, je vais le montrer dans la Bible, hein. Ne retiens pas, allonge tes cordages ou recherche constamment la sagesse divine. Amen. Celui qui a une promesse de Dieu doit voir loin. Il doit voir l'espace pour accueillir la promesse. Celui qui a la promesse de Dieu doit savoir qu'à chaque promesse est rattaché un devoir, une responsabilité. C'est ce qu'on appelle la couverture. Mais si tu es conscient de ta responsabilité par rapport à ta vision, si tu te prépares à tes charges par rapport à la vision, ce n'est pas suffisant pour que ton fardeau, tu veux que les âmes soient sauvées, tu veux que les malades soient guéris, ça c'est bien. Mais pour que cela tienne, pour que cette maison-là s'élève, il te faut de la sagesse. Il faut la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Proverbe, chapitre 14, verset 1, dit, « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Les cordages permettent de bâtir la tente, permettent d'étendre la tente. Et la Bible dit que ce qui bâtit une maison, c'est la sagesse. Là, il est question peut-être de la femme, mais c'est valable pour tout le monde. La preuve, c'est Proverbe chapitre 24, verset 3 à 4. Il est dit, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Donne un bon amen. Donc, qu'est-ce qui permet d'affermir ou d'élever une maison ou de l'affermir? C'est quoi? La sagesse, c'est le rôle des cordes dans une tente. Le cordage permet d'affermir la tente. Le cordage permet d'étendre et de déployer la tente. Donc quand la Bible dit « allonge tes cordages », la Bible fait référence à « allonge » pour dire « fais grandir aussi ta sagesse ». Si tu attends un enfant comme une promesse, il faut que tu aies la sagesse de l'éducation de l'enfant. Il faut être sage. Beaucoup de personnes ont eu des promesses pour le mariage, mais ont détruit leur mariage par leur comportement insensé. La sagesse intervient dans tout. Il faut de la sagesse. La sagesse, je la définis comment? Dans l'enseignement sur les sept colonnes de la sagesse, une des définitions qu'on a donné à la sagesse est celle-ci. C'est l'art de résoudre efficacement des problèmes. Chaque vision entraîne aussi d'autres difficultés. Ce qui permet de les régler, c'est ton raisonnement. C'est la façon dont tu trouves les solutions. C'est ta sagesse. Amen. Amen. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme est censée la renverser de sa main. Il y a des personnes que Dieu a visitées, qui ont eu des moyens financiers, Dieu a béni avec des dons spirituels extraordinaires. Mais ils n'étaient pas sages. Ils n'étaient pas sages. La sagesse t'apprend la gestion de ton temps. La sagesse te montre où il faut t'investir et où il ne faut pas t'investir. Par manque de sagesse, plusieurs ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont investi dans des affaires où ils n'auraient pas dû investir. C'est un problème de sagesse. Dieu t'a donné l'argent. Mais quand l'argent est arrivé, tu ne sais pas ce que tu allais en faire. Savoir parler à sa femme, c'est de la sagesse. On dit, je t'ai dit la vérité, je t'ai dit la vérité. Mais est-ce que ça va... Là, maintenant, tu parles. Est-ce que ça peut régler et amener ton foyer à être heureux? L'objectif, c'est que ton foyer soit heureux. Donc, il ne s'agit pas de... La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel, de sagesse. Il faut être sage. Une femme sage peut amener un mari compliqué à changer. La sagesse, si tu n'as pas la sagesse, tu es foutu, tu vas tout perdre. C'est-à-dire, tu parles comme ça, André, tu ne réfléchis pas. Dieu te donne un travail, tu attends la promesse. Voilà mon fils, je t'ouvre les portes du travail. On va te donner une promotion. Maintenant, tu arrives, tu n'es pas sage, tu ne sais pas parler à tes patrons. Moi, je suis chrétien, est-ce que vous savez ça ici, là? Et... Patron, tu pêches. Oh, mon frère, la promesse va se transformer en malheur, ça va se transformer en chômage. On va te virer. On va te renvoyer. Tu as dit non, j'ai dit la vérité. Mais Dieu a dit, il faut dire la vérité. Mais là, il a enseigné ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est là de savoir parler. Regardez par exemple, Joseph, il était sage. Celui qui était insensé, il allait partir dévoiler la femme. Joseph m'a couvert la femme. C'était très important. Il n'est pas parti parler auprès de Potiphar. Potiphar, est-ce que tu connais ta femme? Non, parce que tu me fais convaincre. Il faut que tu te dises la vérité. Potiphar, ta femme, c'est une prostituée. La sagesse te donne l'art de parler, l'art de l'investissement, la gestion du temps. C'est très important. Il faut être sage. Beaucoup de gens ont des dons. Le talent ne peut pas vous faire réussir. Ce n'est pas le talent. Le talent ne fait pas réussir. Tu sais danser, tu sais chanter. S'il n'y a pas de la sagesse avec ça, tu n'iras nulle part. Tu vas mourir avec ton talent dans un trou. Il faut de la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Maintenant, dans l'enseignement sur les sept colonnes de la sagesse, je vous montre que la Bible nous décrit plusieurs types de sagesse. Il faut faire très attention. La sagesse dont je suis en train de parler, parce que allonge les cordages de ta tente, je vous parle de la sagesse divine. Amen. Parce qu'il y a plusieurs types de sagesse. J'en ai cité environ cinq dans l'enseignement. Il y a une sagesse, par exemple, qu'on appelle la sagesse charnelle. C'est une sagesse, mais elle est charnelle, elle est mauvaise. La sagesse charnelle, si vous prenez le coffret, versez les références, tout existe. Amen. La Bible parle, la Bible définit. Il dit la sagesse que nous prêchons, elle est de Dieu. Elle n'est pas charnelle. Et puis il définit c'est quoi la sagesse. Il explique en quelques mots c'est quoi la sagesse charnelle. La sagesse charnelle, c'est celui qui trouve des solutions aux problèmes juste pour satisfaire sa chair. Mais c'est une sagesse. Sauf qu'elle mène à l'enfer. Sauf qu'elle mène à la destruction. Mais c'est une sagesse. On l'appelle la sagesse charnelle. Par exemple, la sagesse charnelle dit ton diplôme ne suffit pas, ma soeur. Quand tu vas déposer ton curriculum, faut séduire en même temps le gars aussi. Parce que ce qui va te faire avancer dans la vie, faut satisfaire la chair de ton boss. Donc quand tu vas déposer même... Ça c'est une forme de sagesse, mais elle est mauvaise. Mais parce qu'il y en a qui... Et beaucoup de gens, entre guillemets, ont du succès avec cette sagesse. Ils ont du succès. Ils ne vont pas réussir, mais ils ont du succès. Donc tu viens, tu déposes ton... Oui, monsieur embauché, moi, j'ai deux formations. En comptabilité. Et puis l'habit même que tu as porté, dit le deuxième diplôme, les yeux partent. Donc, entre celle qui est arrivée déposer son papier sans le deuxième diplôme, toi tu seras prise. Et quelquefois, on ne tient même pas compte de ton premier diplôme de comptable. On regarde seulement. Et le monsieur, ses yeux ont tellement brillé. Il dit tout de suite, tu es prise, je t'ai dit. Et cette personne-là peut connaître de l'ascension. Elle peut connaître une promotion. Mais quelle est cette sagesse? Cette femme, cette personne connaîtra beaucoup de malheurs dans sa vie. Elle aura peut-être de l'argent, mais elle n'aura pas le bonheur. Elle va peut-être voyager, mais elle va mal finir. Elle va engendrer dans la vie de ses enfants et de sa famille une malédiction. Il y a d'autres sagesses. Il y a la sagesse charnelle. Il y a la sagesse diabolique. Le texte parle, la Bible parle aussi de la sagesse diabolique. La sagesse diabolique, c'est la sagesse du diable. C'est tous ceux qui utilisent les œuvres mystiques pour résoudre des problèmes. Tu veux être député? Casse un canari noir au carrefour. Mais ça envoie des puissances. Donc c'est une sagesse qui t'explique comment activer des puissances occultes. Il y a une soeur qui me rendait témoignage hier, elle dit, ah, qu'elle à la banque, elle est dans un endroit où elle signe les prêts. Et elle devait défendre un dossier. Elle était en train d'étudier un dossier et elle trouvait qu'il n'était pas très... C'était pas trop intéressant, quoi. Il y avait trop de risques. Elle dit, la nuit, elle dormait. Elle a entendu une voix. Signe. On a donné le nom de la société. On dit signe. Elles étaient deux collègues. Elle, comme elle est chrétienne, elle a prié, elle a chassé l'esprit. Donc elle a bien dormi. Elle dit le lendemain matin, elle arrive à voir sa collègue qui a les cernes, qui prend le dossier. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit. On dit le dossier là. Finis-le tout de suite. Donc elle devait signer parce que ce qu'on lui a montré la nuit, elle ne veut plus voir ça. Donc le prêt qu'il veut là, ils vont avoir. Donc vous imaginez les directeurs de cette boîte, ils ont utilisé une autre sagesse, la diabolique. Mais leur société sera malheureuse. Ils vont engendrer beaucoup de mal. Ces messieurs vont entraîner des malédictions sur plusieurs générations. Leur vie va mal finir. Ils ne vont pas mourir en paix. Parce qu'ils ont eu recours à des puissances qui te donnent la matière, mais qui volent ton âme et ton esprit. Et tu vas comprendre un homme qui a perdu son âme, ce que ça devient. Et que la vie n'est pas seulement charnelle et matière. Quelqu'un est-il avec moi? Maintenant, il y a la sagesse divine. Il y a encore d'autres sagesses. Ce qu'on appelle la sagesse humaine, c'est tout ce qui est science de la connaissance humaine. Quand on parle de marketing, par exemple, ça relève de la sagesse humaine. Comment vendre un produit à quelqu'un? La sagesse humaine n'est pas totalement négative. Voilà. C'est la connaissance de l'humain. Maintenant, il y a la sagesse divine. Elle règle tout. C'est la sagesse supérieure. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 que Dieu a réservé une sagesse mystérieuse et cachée que les hommes de ce siècle n'ont jamais vue et connue. La Bible dit qu'il a réservé cette sagesse pour ceux qui l'aiment, ceux qui le craignent. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il te faut la sagesse divine. Amen. Allonge tes cordages signifie, en tant qu'enfant de Dieu, recherche la sagesse de Dieu. Pendant que Dieu te montre ton futur mariage, Dieu te montre tes enfants, tous tes enfants, ton travail a besoin d'une sagesse qui vient d'en haut pour que ton travail soit abordé dans les voies de Dieu et que tu obtiennes la réussite que le Seigneur t'a promise. Amen. Si tu gères les promesses de Dieu avec des sagesses charnelles, ça va te créer des problèmes. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, et là il parle de la sagesse divine, il dit qu'il la demande à Dieu, le Seigneur la lui donnera. Mais il faut qu'il demande avec foi. Quand on demande la sagesse, Dieu la donne. Et je vous dis, je crois dans le nom de Jésus, que tu reçois en ce moment même où je parle, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, comme j'ai dit, la sagesse, c'est l'art de résoudre les problèmes, d'avoir une solution. Écoutez, il n'y a aucun problème sur la terre pour lequel Dieu n'a pas de solution. Mais toutes les quatre types de sagesse qui ne sont pas la sagesse divine ne résolvent pas toute difficulté. La sagesse diabolique a des limites. Charnel a ses limites. Humaine a ses limites. Mais la divine. Et puis il y a la sagesse terrestre. Bon, vous voulez que si. Il y a la sagesse terrestre aussi. C'est différent de la humaine, c'est différent de la charnelle, c'est différent de la diabolique. La sagesse terrestre. Amen. Alléluia. La sagesse divine n'est coincée par aucun problème. La sagesse divine peut composer de temps en temps avec la sagesse. Compose souvent même avec la sagesse terrestre. Et quelquefois, elle a la sagesse humaine. Amen. Mais elle est supérieure. Elle résout tout. Écoutez, il n'y a pas un problème que tu vas exposer à Dieu. Il va venir dire, ah, ma fille. Tu dis, Seigneur, mon mari est compliqué. Il ne peut pas changer. Puis tu viens dire, est-ce que tu peux? Puis il va te dire, ah, ma fille, moi-même, ton vieux père, ton Dieu, là, je suis découragé. Oh. Je n'ai pas de solution. Dieu a une solution. Et la solution à tout problème, c'est sa sagesse, à lui. Là où la sagesse terrestre, la sagesse humaine, diaboliques seront limitées. La sagesse divine continuera à répondre. La sagesse divine a une réponse. Quand tu as l'impression qu'il y a l'argent, tu n'as plus d'argent pour résoudre quoi que ce soit et tout est coincé, fais recours à la sagesse divine. La sagesse de Dieu a une solution à toute difficulté. Et elle fait partie de ton héritage en Christ. Elle est sur toi. Prends-la, saisis-la, marche par elle. Amen. Amen. Dans le magazine de Hattie, je vous explique les deux premières colonnes de la sagesse divine. Parce que dans le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 1, il est dit, la sagesse, moi la sagesse, j'ai bâti ma maison sur sept colonnes. Sept. Pas huit, pas neuf. La sagesse a sept colonnes. Les sept colonnes se retrouvent dans les sept jours de la création. Amen. Donc dans le Hattie, vous avez la première colonne et la seconde colonne. Amen. Qui sont résumées. L'idéal serait de prendre en fait la série d'enseignements et d'écouter l'enseignement sur la sagesse divine. Amen. Parce que pour l'avoir, il faut que vous arriviez à un moment donné à aller au-delà de la sagesse, des sagesses que vous connaissez. La sagesse terrestre, c'est elle qui gère les lois de la nature. Quand on fabrique un avion, une voiture, c'est de la sagesse. Mais c'est basé sur la connaissance des lois terrestres. Ce n'est pas la diabolique, ce n'est pas la magie. Tu connais les lois, tu connais la loi de la pesanteur, tu connais certaines lois, tu les agences et ça peut te donner des résultats. C'est une sagesse qui est basée sur les lois terrestres. Amen. Mais elle encore, elle a ses limites. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je reçois. Je suis rempli. Je suis rempli de ta sagesse. Élargis ta sagesse en moi. Allonge les cordages de la sagesse. Au nom de Jésus. Amen. La sagesse est élevée dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Tu ne sais pas comment on élève un enfant? Reçois la sagesse divine. Elle te parlera. Tu ne sais pas comment on résout tel ou tel challenge? Comment on trouve de l'argent dans certaines situations? Appelle la sagesse divine. Amen. Amen. Donne encore un bon amen. Et je vais finir avec cela. Et la dernière chose. Ésaïe 54, verset 2. Donc, on a fait quoi? Premier point, on a fait quoi? Élargir l'espace de l'attente. Deuxième chose. On a déployé les couvertures. Tout ça, c'est un travail dans la tête. Amen. La troisième chose, on recherche la sagesse. Amen. Donc, avant la promesse du mariage, commence à voir. Deux, pense à ta responsabilité en tant qu'épouse. Ça, c'est la couverture. Pense à ta responsabilité en tant que mari. Tu dois prier Dieu, Seigneur, rends-moi responsable. Fais de moi une bonne femme. Fais de moi un bon mari. Tu as rêvé que tu vas être promu. Tu seras DG. C'est la promesse que Dieu t'a faite. Seigneur, quand je serai DG, comment je vais faire? Vois, anticipe, prie pour la charge. Amen, pour la couverture. Troisième chose, tu as besoin de la sagesse divine. Demande la sagesse. Parce que si le poste vient et que tu n'es pas sage, tu vas le perdre. Amen. Quatrième chose à faire, il dit, affermis quoi? Affermis tes pieux. Affermis tes pieux. C'est quoi les pieux? Les pieux, ce sont les piquets des tentes. Amen. Le piquet ou le pieu, c'est donc ce truc pointu qu'on enfonce dans la terre et sur lequel on attache la corde. Alléluia. Autrement dit, la sagesse qui représente la corde, qui est représentée par la corde, doit aller s'attacher à un objet qui est fixement, qui doit rester très affermi et enfoncé dans la terre. Alors, le Seigneur dit en Ésaïe 52, 54, verset 2, « Affermis tes pieux. » Donc, l'attente ou l'espace qui doit recevoir ta promesse n'est pas fini tant qu'on n'a pas mis les pieux. Parce que tu as beau tirer la corde, mais il faut pouvoir l'accrocher au piquet. Amen. Sinon, on peut déployer la tente. Mais vous, tu seras obligé. Dis à ton fils, prends l'autre corde. Et puis vous êtes là. La vision est rentrée. Les promesses, la tente est prête. Tu vas tenir combien de temps? Donc, il faut qu'il y ait un piquet. Il faut que le piquet soit bien affermi, soit bien enfoncé. Plus ta vision est large, plus la tente est grande, plus ton pieu doit être enfoncé. Amen. Le pieu peut replanter la fondation d'une maison comme ça. Plus la maison sera grande, plus les fondations doivent être fermes et solides. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Alors, qu'est-ce que représentent les pieux? Je dis ceci, donc, affermis tes pieux ou tes piquets, affermis tes pieux ou par le Saint-Esprit, fixe-toi j'ai dit le mot fixer. Fixe-toi des principes auxquels tu ne dois jamais déroger. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Bon, tu dois fixer une chose et le pieu, pour une tente, on ne le déplace pas. Quand tu touches le pieu, c'est parce que tu déménages la tente. Le pieu ne doit pas bouger. Parce que toute la structure dépend de lui. Alléluia. Et je dis, quand tu commences à voir et à savoir que Dieu va faire de grandes choses avec toi et que tu vas recevoir une promesse, tu dois faire encore une quatrième chose. Tu dois affermir tes pieux. C'est-à-dire, tu dois te fixer des principes inamovibles, des principes que tu dois pas, auxquels tu ne dois pas déroger. Amen. C'est quoi des principes? Ce sont des lois que tu te donnes. En effet, pour revenir à l'histoire d'Israël dans le désert, à la quatrième épreuve, quand on arrive à Exode chapitre 20, ceux qui connaissent bien la Bible, c'est en Exode chapitre 20 que Dieu donne les 10 commandements. Donc, je vous ai dit que l'épreuve 4 dure de Exode 17 à Exode 32. Donc, on a 20, 21, c'est là qu'on va décrire le tabernacle. En fait, tout le culte et le caractère, le comportement en société, vis-à-vis de Dieu, dans la société, la gestion des hommes, des femmes, des enfants, dans ce temps de longue attente, Dieu va normaliser ce que les hommes savaient, sentaient déjà. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les 10 commandements, on dit par exemple, tu ne vas pas voler. Est-ce que tout le monde sur la terre ne sait pas qu'on ne doit pas prendre ce qui appartient à autrui? Dans les textes, on dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Est-ce que ça, là, il fallait qu'on soit juif ou hébreu pour savoir ça? Dans quel peuple sur la terre ici, tu es autorisé à convoiter? Je veux dire, les lois, que la plupart des lois que les 10 commandements donnent sont déjà écrites dans le cœur de tous les humains. Vous comprenez? On sait naturellement, on n'a pas besoin de prier, de venir à l'église pour savoir que voler est mauvais. On n'a pas besoin d'être chrétien, de venir à l'église pour savoir qu'on ne doit pas prendre le conjoint d'autrui. On n'a pas besoin d'être chrétien. Mais pourquoi Dieu va normaliser? C'est la notion de fixer. Vous comprenez? C'est-à-dire, naturellement, vous le savez, mais on ne va pas se contenter de la loi qui est écrite dans votre cœur. On va lui donner une forme précise. On va écrire, on va fixer la loi là. On va la fixer. Amen. Tout le monde sait qu'il faut prier Dieu. Maintenant, on va vous dire comment on prie Dieu. Et puis, on fixe. Donc, c'est ce que Jéthro, c'est ce que Dieu a révélé à Moïse. Donc, Jéthro a appris à Moïse à rêver, à voir la destination. C'est Dieu qui a donné ça à Moïse. Jéthro lui a appris comment couvrir le peuple, comment bien couvrir le peuple. Amen. Et puis après, Dieu l'a visité pour lui montrer, maintenant il faut des règles. Tout ça dans le désert des longues attentes. Et ces choses-là doivent être déployées avant que la gloire de Dieu ne se manifeste. Et comme elle n'est pas loin, alors fais ça très rapidement. Parce que ça fait partie de ton dossier avant que le roi des rois n'arrive. Comme je l'ai dit, il y a toujours un protocole avant l'arrivée du chef d'État qui vient vérifier que ta maison qui va le recevoir est prête. Est-ce que tout est à sa place? Amen. Donc, l'ange va te visiter bientôt pour vérifier que tu es prêt à recevoir la promesse. Donc, vas-y rapidement. Amen. Amen. Maintenant, fixer les piquets, ça c'est quoi dans la vie? Il faut fixer des piquets. Il faut fixer des piquets en ce qui concerne, par exemple, je vais citer quelques exemples. Parce qu'une tente peut avoir plusieurs piquets. Ce n'est pas forcément quatre cordages. Ça dépend de la forme de la tente. Amen. Voilà. Il y a cinq tentes, tu as vraiment beaucoup plus, tu as beaucoup de cordages. Peu importe. Le nombre n'est pas limité. C'est toi qui, en fonction de la vision, seras conduit par le Saint-Esprit pour établir des normes. Si tu ne le fais pas, la gloire va te tuer. Tu sais, tu es en train de prier. Je vais atteindre les nations. Je vais atteindre les nations. Si Dieu réalise cela, est-ce que tu sais que si tu n'as pas fixé ta vie de prière, tu peux arrêter de prier? Tu seras tellement des avions que tu n'auras même plus le temps de prier. J'ai vu beaucoup de sœurs en Christ qui attendaient l'arrivée d'un enfant. Et quand l'enfant est arrivé, elles ont perdu leur communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant, ça embrouille ton organisation. L'enfant, toi tu priais. Sans qu'on te dise quoi que ce soit, tu priais. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. Bonne sœur à l'église. Oui, alléluia. Maintenant, tu attends un enfant. Alléluia. Dieu dit, l'enfant arrive. Et là, je n'ai pas de ta tante. Tu dis, oui, ça c'est parce que j'ai compris. J'élargis l'enfant, je vais, voilà l'école où il sera, tout ça. Dieu dit, c'est bien. Allonge, déploie tes couvertures. Est-ce que tu regardes ta responsabilité de maman? Oui, Jésus. Demande-moi la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse pour bien éduquer cet enfant. Maintenant, Dieu dit, affermis tes pieux. Quand l'enfant va venir, les enfants comme ça, la nuit, ils pleurent toute la nuit. Donc, si tu pries vers 4 heures du matin, l'enfant va te dire, ça, il faut arrêter, tu comprends? Moi, j'ai faim à 3 heures. Est-ce que tu sais ça? Et si tu ne fais pas attention, le temps de te réveiller, après 3 mois, l'enfant va me prendre combien de temps même pour arrêter de pleurer? Il faut qu'on veille pendant combien de temps? 3 à 4 mois. Après ces 3 mois-là, ça veut dire que tu peux être déboussolé dans ta vie de prière. Donc, ce qui est pour toi une bénédiction peut se trouver un problème en cassant tes valeurs spirituelles. Tu vas te retrouver des dimanches, tu peux faire un an, tu ne viens même pas à l'église. Et il ne faut pas penser que parce que c'est justifié que tu es l'enfant, ta vie spirituelle sera forte malgré tout. Tu dis, mais Dieu, mais toi, tu comprends que je ne peux pas prier. On ne comprend pas que tu ne peux pas prier. Ton don, ton onction, ta grâce va partir, va baisser. Tu peux avoir un travail avec. Tu demandes à Dieu de l'argent. Mais Dieu peut te donner de l'argent. Ça. Si tu n'as pas des principes, ben ça va te monter à la tête. Tu vas devenir fou. Moi seul. Milliards. La gloire de Dieu. Bon, qu'est-ce que ça fait? J'ai encore des millions. Je vais construire au moins 4 maisons. Et tu peux prendre ton argent, ça dit, sans te rendre compte, tu as fait de mauvais investissements. La gloire que tu attends peut déranger énormément si tu ne t'y prépares pas. Tu vas être pris, tu demandes à Dieu, Seigneur, vraiment, donne-moi des promotions. Je suis fatigué de ce poste. On peut te donner le travail. Et le travail fait que tu te trouves à des réunions impossibles. Donc quand tu appelles, ah pasteur, le culte s'est bien passé. Ouh, Dieu m'a élevé. Je n'ai pas le temps de venir au culte. Je n'ai pas le temps. Frère, tu vas rétrograder. La gloire t'a tué. Donc, quelle que soit la promesse que vous attendez, sachez qu'il faut que vous ayez des choses qui ne bougent pas. Et tous les grands hommes de Dieu qui ont établi ça sont restés fermes. Quelqu'un comme Salomon, le grand roi Salomon, ce qui lui a manqué, c'est d'établir ses piquets. Hein? Il a rêvé grand. Il a vu un grand peuple. Ouais, Dieu lui a, il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse pour couvrir le peuple. Parce qu'il a dit, si je suis sage, je pourrais mieux entretenir le peuple que tu me donnes. La sagesse de Salomon a donné à Salomon de créer la paix autour de lui. Il a vu des fruits autour de lui. Mais il n'a pas établi, affermi ses piquets. Toutes les filles l'aimaient. Dans quelle image? Tu vois les filles qui sont là. Ouh, Salomon. Il dit, hé hey! Joab, il vient son garde. Il dit, celle-là, je la marie. Donc, ce gars a épousé 700 personnes. Mais pour marier 700 personnes, il faut que tu maries tous ceux que tu rencontres dans la ville. Oh, mais elle est pas mal. Amène-la. Donc, il y avait au moins, il y avait 700 femmes, 300 concubines. Il y avait 1000 personnes qui disent, qui se promenaient dans le royaume pour dire, je suis l'épouse de Salomon, hein, fais attention. Donc, je pense qu'il avait un rang parce qu'il y a... Je pense qu'il y a une quand même qui voulait être la 1001e personne. Comment? Voilà, voilà. La salle là, ça fait près de 1000 places. Donc, c'est comme si, quand Salomon arrive, il... S'il doit avoir une femme par jour, il lui faut 3 ans. Donc, il voit une femme. Il dit, là, qui es-tu? Mais c'est ta chérie, tu m'as marié il y a 4 ans. Ah! Elle a dit, comment? Lui seul, 1000 femmes, frère! Le grand Salomon s'est détourné de la voie de Dieu. Pourquoi? Il n'avait pas de principe. Il y a des choses que vous devez fixer. Avant la gloire, vous devez fixer des valeurs. Vous devez les affermir. C'est ce qui va vous sauver. Quand l'argent va venir, ça va te sauver. Quand tu vas te marier, ça va te sauver. Quand tu vas avoir les enfants, ça va t'aider. Quelle que soit ta promesse, ça t'aidera. Est-ce que tu as des principes que tu ne bouges pas? Parce que généralement, quand on est libre, on prie quand on veut. Et comme on a beaucoup de temps, on a toute envie de prier. Mais quand tu es toujours au travail, si tu soumets ta vie de prière à quand tu as envie, je t'assure que tu ne prieras plus. Si tu soumets ta venue à l'église à quand tu le ressens, quand tu auras ta promesse, tu ne viendras plus au culte. Un exemple rapidement des choses qu'on peut affermir. Amen. Qu'il faut fixer. Fixe ta relation avec Dieu. Donne-toi des principes pour ta relation avec Dieu, avec lesquels tu ne badines pas. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire, règle de vie spirituelle. Il faut que tu fixes ça. Daniel, par exemple, les hommes que Dieu a bénis, Daniel, avait 3 temps de prière par jour. Il ne bougeait pas. Les gens sont venus lui dire, si tu arrêtes ton temps de prière, ou bien tu seras tué. Il dit, ça ne bouge pas. Ceux qui font de la compromission auraient dit, bon, comme ça dure pendant une période de un mois, je vais laisser mes 3 moments de prière, je vais prier dans mon cœur. À la fin du mois, je vais reprendre. Dieu, tu me connais. Oh. La vie de prière, la Bible dit, Daniel avait résolu. C'était une coutume. C'est-à-dire, son temps de prière a quitté le domaine du « quand je suis inspiré à prier » pour passer à la loi de la prière. Pour recevoir la gloire, il faut que certaines choses que vous faisiez naturellement pour Dieu, vous les faites quitter simplement le désir pour passer à la règle. Il y a une règle de vie. Ça veut dire, quand j'ai envie de prier ou pas, je prie. Je ne prie plus quand j'ai envie. Je prie parce que j'ai décidé de prier. Ça fait la différence. La Bible dit que Jésus priait par... La Bible dit, il montait selon sa coutume. Il faut que votre vie de prière et vos horaires de prière quittent la simple inspiration de la prière pour passer à la coutume de la prière. Maintenant, quand vous êtes inspiré, vous mettez un bonus. Mais quand vous n'êtes pas inspiré, vous priez quand même le temps que vous avez prévu. Si tu as prévu 10 minutes, tiens à cela. Le jour où tu es inspiré, tu fais une heure. Mais même, parce qu'il y a des fois, quand tu pries, tu n'es même pas du tout inspiré, au moins fais tes 10 minutes. Garde ça, ça va te sauver. Amen. Amen. Et ça, au moins, c'est une chose que nos amis musulmans, ils ont compris. C'est nous les chrétiens qui comprenons ça. Ils ont 5 temps de prière par jour. Vous êtes en pleine réunion, ils vont faire couper la réunion. Il y a des choses qu'ils ont fixées. Et ça, ce sont des choses que Dieu apprécie. Est-ce que tu veux recevoir la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu as fixé comme vie de prière? Qui est vraiment fixe, quoi. Amen. Maintenant, devant la nouvelle dimension, tu vas t'arranger. Tu sais que l'enfant va te prendre toutes les nuits. Donc, tu peux repositionner ton piquet en fonction de l'élargissement de ta tente. Amen. Ok, comme je vais avoir un enfant, je vais avoir 2 enfants. L'enfant va me prendre la nuit. Oh, moi, j'avais l'habitude de prier à 4 heures, mais je serai fatigué vers 4 heures. Je ne pourrai pas prier intensément. Donc, je vais repositionner mon temps de prière à tel moment pour pouvoir prier tout le temps. Donc, c'est la grandeur de la tente qui te fait aménager et fixer ton programme. Amen, amen, amen. 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 Comme je suis tout le temps entre 2 avions, voilà mon temps de prière que je garde. Quel que soit le pays dans lequel je me trouve, dimanche, c'est le jour du Seigneur, je vais à l'église. Il faut fixer ça. Il faut fixer des principes de sainteté. Salomon, lui, n'a pas fixé les principes de sainteté. Par exemple, des choses comme fuir l'impudicité. Daniel ne mangeait pas les mets. Il s'était interdit de manger les mets qui venaient de la table du roi. Vous devez avoir des principes de sainteté. Des choses qui vous gardent dans la sainteté. Vous devez avoir des barrières. Quand la gloire commence à arriver, si tout ciel est matériel, financier, on va découvrir que vous êtes très beau. On va découvrir que vous êtes très belle. C'est-à-dire, même si tu n'étais pas très jolie dans la vie, quand l'argent arrive, oh, l'argent rambo, l'argent rambo. Et ton teint devient d'une manière. La Bible dit que quand Joseph était chez Madame Potiphar, on ne voyait pas sa beauté. La Bible dit qu'à un moment donné, Madame Potiphar s'est rendu compte que Joseph était un bel homme. Parce qu'en ce moment, il était devenu le chef de la maison. Donc, il avait tous les produits. Donc, quand Joseph sort, sa taille. Avant, il était un esclave plein de saleté, de boue, qui sentait mauvais. Maintenant, il était chef de la maison de Potiphar, parfumé, garçon élégant. C'était la gloire. Madame Potiphar l'a regardé. Elle dit, ouh! Il dit, jeune homme, juste une petite nuit. Mais Joseph était ferme. Il dit, madame, et j'aime, dans le texte, à cause du temps, le texte dit, Joseph, projection, montez-moi, Genèse. Genèse 39, verset 10, il a dit, quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph. On peut la voir à l'écran. Genèse 39, 10. Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. C'est-à-dire que quand Joseph a vu la femme là se manifester, même marcher à côté d'elle, il ne faisait pas ça. Il dit, quand la femme rentre dans la cuisine, lui, il est au salon. Or, il sait que même dans la cuisine, là, peut-être rien ne peut arriver. Ça veut dire qu'il a refusé d'être à côté d'elle. Il n'a même pas essayé de tenter. Et ça, ce sont des principes que vous établissez avant l'élévation. Vous me suivez? Alléluia! Moi, vous connaissez mes principes. En ce qui concerne mon intimité avec le Seigneur, je sais que quand Dieu t'utilise, le monde entier t'appelle. Viens prêcher ici, viens prêcher là, viens prêcher là. Mais ce n'est pas eux qui doivent me donner mon programme. J'ai consacré la première semaine de chaque mois à Jésus. Première semaine du mois, je m'enferme. Et je m'en vais chercher Dieu. Donc si tu veux m'inviter, quelle que soit la révélation que tu as eue, ça ne bouge pas, c'est fixé. J'ai une fixation en ce qui concerne mon jour de repos, c'est lundi. Tout le monde sait qu'on ne m'appelle pas lundi. Parce que quel que soit ce qui t'arrive, je ne vais pas venir. C'est fixé. Décider de fixer quelque chose va entraîner des sacrifices et ça va vous faire perdre certaines choses. Mais il faut être prêt à le faire. Si vous ne le faites pas, ça va vous tuer. Vous allez perdre des valeurs. Si je ne me suis pas reposé lundi, je peux me reposer mardi. Je ne suis pas obligé de me reposer lundi, mais j'ai fixé lundi. Parce que je sais que je risque d'être tellement préoccupé et occupé dans les activités qu'à un moment donné, mes prières, mon niveau de prière va baisser. Parce que je serai fatigué, je ne vais pas avoir suffisamment de discernement. Donc j'ai compris la valeur du repos et j'ai fixé un jour de repos. Je me suis connu avant de connaître Jésus, je n'ai pas de tentation sur le plan, Dieu m'a délivré de tout ce qui est tentation du sexe opposé. Mais j'ai fixé quelque chose là-bas parce qu'on ne joue pas. Un péché comme l'impudicité, ça te gaspille la grâce, ça te suce. L'impudicité, ce n'est pas bon. L'adultère, c'est un destructeur de destinée. J'ai donné l'enseignement sur Proverbes chapitre 5. Je te montre dans la Bible comment on puise de ton énergie vitale, de ton destin, quand tu commets l'adultère, l'impudicité. C'est pourquoi c'est toi, c'est-à-dire que tu dois faire cet échange d'énergie-là avec ta femme seulement. Donc, pour ne même pas rire quoi. Non. Vous savez la règle. Hein? Je vais prévenir. Parce que si un jour je te prends dans la ville, quand tu vas venir, tu vas voir que je n'ai pas te dit de t'asseoir à ma droite là. Si là ça gêne quelquefois les sœurs. Mais elles se sont toujours assises derrière. Il dit, mais pasteur, c'est pas bien. C'est comme si tu me conduis, comme si tu étais mon chauffeur. Oh, tu es mon pasteur. Je dis, là, ma fille, ici, je suis ton chauffeur, c'est pas grave. Prends comme tu veux. Mais c'est fixé. C'est fixé. Amen. C'est fixé. Un homme que j'aime bien, Pasteur Kassanou, lui, si tu es une soeur, tu viens lui faire bise, il ne va pas faire. Il ne fait pas de bise. Kassanou, il ne fait pas de bise. Ça dit, bise, vous allez coller vos joues là. Tout ça là, lui n'est pas là-dedans. Parce que dans le collement des joues, des choses. C'est fixé. Vous me suivez? C'est fixé. Ça veut dire, faut même pas te donner l'occasion de. Non. Fixe des choses. Tu fixes. Tu pries. Tu dis voilà. Toi, par exemple, tu es une femme, tu as un bon poste, tu es élevé en société. Tu dis, je ne vais jamais à un dîner sans mon conjoint. Le mari dit, je suis jamais dans telle manifestation sans ma femme. On dit non, viens, c'est entre nous. Tu dis mon frère. Moi là, je suis une seule personne avec elle. Si tu m'invites, elle vient aussi. En dehors des heures du boulot. Bon, tu te connais, fixe. Dis à un voisin, il faut fixer. Alléluia. Gloire à Dieu. Fixer des choses sur l'humilité. La gloire, la célébrité, l'élévation, toutes ces genres de choses-là vous rendent fragile à l'orgueil. Le cœur enfle, tu te crois supérieur aux gens. La Bible dit que pour empêcher Paul de s'enorgueillir, Dieu a permis qu'il ait une écharde. Une écharde, ça ressemble à un piqué. C'était quelque chose de pointu. Ça a été marqué. Et chaque fois, ça l'amène à être humble. Moi, j'ai des principes similaires. C'est-à-dire, j'ai toujours quelque chose autour de moi qui doit me rappeler si mon cœur commence à s'enfler. C'est ce que j'appelle une chose fixée. Parce que bon, quand tu vas t'utiliser, tu vas avoir beaucoup d'argent, les voitures, tu parles avec certaines personnalités, tu rencontres certaines personnes. Si à un moment, tu peux croire que ceux qui sont autour de toi sont inférieurs, quoi. L'orgueil a détourné le diable. Il faut que tu fixes des choses pour rester humble. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais il faut que tu fixes des choses pour rester humble. Il faut qu'il y ait des choses qui te rappellent que tu es un homme à qui Dieu a fait grâce. Il faut que tu fixes des choses qui te rappellent d'où tu viens. Parce que souvent, tu oublies d'où tu es sorti, de quel trou Dieu t'a pris. Il faut fixer des choses qui te marquent ton passé. Il faut fixer des choses qui te montrent qu'un jour tu étais dans la galère. Non, parce que quand tu as l'argent, tu es là et puis tu parles. Mais vous là, hein, on comprend pas, vous êtes paresseux dans la vie là. Vous êtes c'est comme ça, c'est à cause que tu es pauvre, mon frère. Est-ce que tu sais, toi, d'où Dieu t'a pris? Si toi, tes parents ont les moyens, souviens-toi d'où ton papa est sorti. Et souviens-toi que ce n'est qu'un héritage. Et toi-même, tu n'as pas travaillé pour avoir. Il y a des choses qu'il faut se marquer pour savoir qu'on est comme les autres et qu'on est simplement humain. Si tu ne fixes pas, tu vas oublier. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que nous soyons... Maintenant, je crois qu'on est prêt à recevoir. Alors, prends ta fiche et puis coche ce que tu as fait. Est-ce que ma tente est élargie? Ouais. Est-ce que j'ai allongé? Est-ce que j'ai déployé la couverture? Coché. Est-ce que je recherche la sagesse? Coché. Est-ce que j'ai fixé certaines choses? Si tu vois que non, tu dis je commence. Père, aide-moi à fixer des choses. Je vais me marier. Je consacre le samedi à mes enfants. Fixe. N'attends pas d'avoir les enfants pour fixer. Fixe avant. Je vais me marier. Je dois toujours au moins deux fois dans la semaine ou bien une fois dans le mois avoir un temps où je vais rester seul avec ma femme. Si tu ne fais pas ça, tu vas tellement voyager qu'un jour tu vas te rendre compte que ça fait 5 ans, ta femme et toi, vous n'avez plus fait de restaurant. La vie va te surprendre. Donc si tu veux fixer tes sorties au restaurant, il faut les fixer maintenant. Parce que la promotion arrive et la promotion va te solliciter. Parce que les moyens arrivent et ils vont te solliciter. Donc fixe tes cordages, fixe, ça va te sauver. On va se tenir debout. Alléluia. Et on va parler au Seigneur. Alléluia. Jésus, ce que le Seigneur t'a dit, parle par rapport à cela. Prie par rapport à cela. Arrange les choses par rapport à cela. Mets de l'ordre dans ta vie par rapport à cela. Mets de l'ordre dans ta vision. Mets de l'ordre dans ta responsabilité. Mets de l'ordre dans la sagesse divine. Délaisse les sagesses humaines et recherche celle qui vient de Dieu. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Demande-lui de t'aider à imaginer, à rêver, à voir au-delà. Demande-lui de te donner le fardeau de la responsabilité par rapport à ton appel. Demande-lui de te donner la sagesse divine qui est attachée à ce ministère, à cette vision que tu as. Demande-lui les principes et les lois qui sont attachés à ce que tu vas voir arriver. C'est ton Dieu qui t'a dit qu'il t'enverra dans les nations, que tu proclameras sa parole, que le monde recevra, entendra les paroles qu'il mettra dans ta bouche. C'est une promesse, elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Mais avant son accomplissement, il te dit, élargis l'espace de ta tente, déploie tes couvertures, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Brianda bababa chantara da brousse. Pray de glory and abradi sharabara la kendere debo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous aides à faire et à marcher dans ta volonté. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Sanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.